Bienvenue à ce nouveau petit cours d'histoire mondiale. C'est le moment d'un petit cours plus thématique, car la fin du mois de février et le début du mois de mars marquent un moment particulièrement important dans la vie d'un grand savant et astronome de l'histoire, Galilée. En effet, le 26 février 1616, donc il y a exactement 410 ans, il a reçu sa sentence après un premier procès pour hérésie. Et là, il devait à tout jamais s'abstenir de véhiculer sa théorie sur l'héliocentrisme, alors que lui et Copernic étaient convaincus plus que jamais que la Terre n'était pas au centre de l'univers, mais que c'était plutôt le Soleil. Galilée vient aussi de faire son arrivée dans les actualités historiques parce qu'un chercheur vient de découvrir un manuscrit qui porte ses annotations. Intéressons-nous à cette nouvelle et au grand jalon de la vie de cet homme qui, malgré les interdictions de son époque, a marqué l'histoire de la science. À la mi-février, un chercheur du nom d'Ivan Malara de l'Université de Milan a fait une découverte assez émouvante en lien avec Galilée. Il faut dire que le chercheur s'intéresse depuis plusieurs années à essayer de déterminer à partir de quelle édition précise de l'Almageste Galilée a travaillé. Bon, là, vous allez vous dire, qu'est-ce que l'Almageste? C'est un grand traité, on pourrait dire à la fois mathématique et astronomique, de Claude Ptolémée, qui est un des grands chercheurs du 2e siècle de notre ère, qui a aussi influencé le projet de voyage en mer de Christophe Colomb. Et c'est un traité qui présente et qui explique ce qu'on appelle le modèle géocentrique, soit que la Terre est immobile et se trouve au centre de l'univers, et c'est autour d'elle, en fait, que tournent les astres en mode, on pourrait dire, circulaire, mais assez varié. Là, on peut parler d'épicycle ou d'excentrique. Vous pouvez d'ailleurs consulter cet ouvrage-là et aller voir aussi en ligne un petit peu ces espèces d'ellipses-là pas tout à fait exactes quand on voit ce qu'on sait aujourd'hui, mais qu'on avait imaginé quand même à cette époque. Et c'est un ouvrage qui a maintes fois été copié à la main, qui a été traduit et qui a été la grande base en astronomie là, jusqu'aux découvertes de Copernic et de Galilée. Et c'est donc normal, en fait, qu'ils aient consulté tous les deux à maintes reprises cet ouvrage-là. Et c'est à la Bibliothèque nationale centrale de Florence que le chercheur a consulté un exemplaire imprimé de l'Almageste qui a été publié à Bâle en 1551. Et là, à l'intérieur, il a remarqué en fait qu'il y avait des annotations manuscrites et après plusieurs recherches, eh bien, il arrive à la conclusion qu'il s'agit d'annotations de Galilée. Il y a d'autres analyses qui vont probablement être nécessaires là, pour l'affirmer hors de tout doute, mais il faut dire que ça reste une découverte qui est très intéressante et qui vient gonfler nos connaissances sur le travail de recherche réalisé par Galilée avant qu'il présente en fait de manière plus détaillée sa théorie sur l'héliocentrisme. Et il faut dire que Galilée, ben c'est un homme de la Renaissance italienne. On va le placer un petit peu. Et quand on parle de la Renaissance italienne, on va jouer beaucoup à partir du 14e siècle. On parle quand même là, d'une époque de grandes découvertes bon, en sciences, en mécanique, en langue, en philosophie, en art, en architecture, en géographie, parce que c'est quand même une époque où on a commencé à chercher à comprendre le monde, mais sans l'explication divine, sans toutefois renier l'existence de Dieu. Alors ça, c'est bien important. Les chercheurs ne veulent pas dire que le monde existe sans que Dieu ait eu quelque, on va dire, implication que ce soit, mais ils veulent le comprendre sans toujours revenir à l'explication, oh, c'est Dieu qui a fait ça. Et Galilée va vraiment entrer dans cette vague intellectuelle et ce qu'on peut appeler le début de la pensée scientifique et de la pensée critique. Et il est issu de ce qu'on appelle la petite noblesse florentine. Et on sait qu'il est intéressé très tôt par les sciences, même s'il n'a pas complété de diplôme. Il va commencer à fréquenter en fait ce qu'on appelle les universités humanistes de l'époque de la Renaissance. Il va entre autres à l'université de Pise en 1581. Et c'est là qu'il va commencer à écouter les cours et les discussions de plusieurs savants, dont des mathématiciens. Parce que Galilée, de ce qu'on en sait, en fait, au départ, il s'est beaucoup intéressé à la médecine. Mais les publications puis l'enseignement étaient trop contrôlés par les jésuites et ça empêchait, en fait, le développement de la science à ses yeux. Et c'est comme ça qu'il va se découvrir une véritable passion pour les mathématiques qui était beaucoup moins, en fait, contrôlée par, on va dire, le monde religieux à l'époque. Et là, il découvre Archimède, il découvre Euclide. Il réalise que les mathématiques permettent, sont un langage, en fait, qui permet de comprendre l'univers. Et Galilée va aller beaucoup plus loin que ça. C'est sûr que oui, les mathématiques, pour lui, c'est une façon de calculer comment le monde dans lequel on vit fonctionne, est articulé même, mais avec arrive à un moment donné un intérêt pour les outils qui vont lui permettre en fait d'observer ce monde dans lequel il vit. Et de ce qu'on en sait encore une fois, à un moment donné, il va jouer avec des verres courbés et il va s'intéresser à l'optique. Et bon, Galilée est quand même assez important dans cet univers-là de ce qu'on peut appeler les ancêtres du télescope, parce que là, il va commencer à s'intéresser aux différentes lentilles. Si vous avez fait des cours de physique en secondaire 4, ça doit commencer à vous rappeler quelque chose, concave, convexe, etc. Mais il va vraiment, en fait, s'intéresser à tout ça. Et grâce aux lentilles, ben, il sait qu'il peut porter son regard vers le ciel et voir davantage, en fait, qu'est-ce qui se trouve dans le ciel à une époque où on ne peut pas y aller. Et on peut donc commencer à grossir, en fait, et à avoir des détails qu'on n'aurait jamais pu voir auparavant. Mais donc, ce qu'on appelle l'astronomie reste un intérêt qui peut être dangereux parce qu'on veut Galilée vit en Italie, ça reste le siège de la papauté, et c'est une époque où, malgré les découvertes constantes dans plein de domaines que je vous ai évoqués, en fait, il y a quelques instants, faut pas oublier que l'Église domine le quotidien, et la Bible, d'une certaine façon, domine aussi les croyances et plusieurs actions quotidiennes. Et les gens, ben, voyaient le soleil se déplacer de l'est vers l'ouest tous les jours, et c'est un petit peu ce qui faisait en sorte qu'ils étaient convaincus, en fait, que la Terre était au centre et qu'elle était fixe, parce que le sol, lui, bougeait pas sous les pieds. Et là arrive un chercheur polonais qui s'appelle Copernic, qui commence, en fait, à publier ses théories sur la possibilité que, ben, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, et pas que ça, elle tourne sur elle-même. Surtout si on s'intéresse au cycle du jour et de la nuit, si on s'intéresse aux saisons, à ses yeux, c'est la seule explication logique. Et ce sont des théories qui ont été beaucoup moquées à l'époque. Les gens croyaient que c'était des faussetés, et aussitôt que ces livres-là commençaient à circuler, qu'on republiait en fait ces idées-là, ces livres-là s'en allaient à l'index. Donc, l'Église interdisait en fait leur circulation. Mais en même temps, arrive quand même un besoin de laisser la science se développer, notamment dans le domaine de la médecine. On a besoin de mieux soigner les gens, on veut aussi, découvrir un passage maritime vers l'Asie après le blocus de Constantinople en 1453. La Renaissance, c'est l'époque de la redécouverte des textes de l'Antiquité, où on réalise que les gens de l'Antiquité, ben, s'intéressaient à toutes ces questions-là, s'intéressaient, en fait, à la sphéricité de la Terre, le fait que la Terre était ronde, s'intéresser, en fait, à la place de la Terre dans l'univers aussi, même s'ils n'avaient pas les outils que Galilée va pouvoir développer. Et on va, donc, lentement, mais sûrement, quand même permettre aux scientifiques d'étudier plein de sujets tant qu'ils ne contestent pas Dieu, tant qu'ils ne contestent pas la Bible, parce que c'est sûr qu'on veut garder, on va dire, un certain contrôle sur la pensée et la réflexion à cette époque-là. Et donc, Galilée s'intéresse de plus en plus à l'astronomie, voit bien que c'est délicat comme sujet, mais il est convaincu qu'avec des meilleurs outils astronomiques, donc avec des lunettes astronomiques, on va peut-être pouvoir mieux comprendre, en fait, la place de la Terre dans l'univers, et mieux comprendre, en fait, ce qui gravite autour de nous, surtout la nuit. Alors, il va quitter Pise pour Venise, il va étudier à l'université de Padoue. C'est une université qui entre vraiment dans cette espèce de nouvelle vague humaniste. Ça a été fondé par des étudiants, il n'y a pas de contrôle des jésuites, il n'y a pas de contrôle religieux. On veut vraiment, en fait, favoriser la liberté de recherche et d'enseignement. Et on est même prêt à le faire, même si l'Inquisition plane au-dessus. On veut essayer, en tout cas, d'y arriver, de ne pas avoir de limite à la réflexion, de limite à la recherche, et être capable d'expliquer le monde sans toujours avoir peur, en fait, de voir, en fait, les ouvrages être brûlés ou interdits de publication. Alors, c'est un petit peu la raison pour laquelle Galilée décide d'aller du côté de cette université. Et un peu comme un Léonard de Vinci, Galilée est un homme qui est curieux, qui touche à tout, donc on va le voir devenir autant philosophe que mathématicien, mais il est surtout doté de grandes habiletés techniques. Et c'est un très bon vulgarisateur, et c'est pour ça qu'il va devenir une espèce de danger pour l'Église, parce que pourtant il est croyant, il ne conteste pas du tout, en fait, l'existence de Dieu, mais La science, c'est essayer de comprendre ce monde que Dieu a créé, si je vous mets un peu dans la vision de l'époque. Et il considère qu'il n'y a pas vraiment de bons livres d'astronomie encore à son époque. La théorie du géocentrisme d'Aristote ou de Claude Ptolémée, à ses yeux, ça ne fonctionne pas. Et il penche de plus en plus en faveur de la théorie de ce savant polonais, Copernic, qui est l'héliocentrisme. Et à l'époque, ben, on a comme deux formes de pensée, en fait, sur l'univers qui commencent à entrer en confrontation, on pourrait dire ça comme ça, et en contradiction. Donc, vous avez ceux qui se basent plus sur Aristote et, bon, Ptolémée, mais on a les aristotéliciens là, qui sont convaincus que la Terre est statique et qu'elle est au centre de l'univers et que c'est le Soleil qui tourne autour d'elle. Et là arrivent les coperniciens qui appuient Copernic, qui se disent « Non, c'est l'héliocentrisme, c'est comme ça que fonctionne notre univers. Le Soleil est au centre et la Terre et les autres sphères qu'on observe dans le ciel tournent autour du Soleil qui, lui, est immobile. » Alors, en fabriquant des premiers verres, Galilée développe vraiment ce qu'on peut appeler l'ancêtre du télescope, qu'il va perfectionner. On parle plus d'une lunette astronomique, là, mais ça va lui permettre, en fait, d'observer la Lune, les étoiles. Et il est quand même bon pour l'époque, parce qu'il est capable d'augmenter la force jusqu'à 30 fois. Et il va commencer à en vendre hein, à la marine de Venise. Il va faire des démonstrations à la tour de Saint-Marc. Et là, les navigateurs vont faire « Mais c'est fabuleux de pouvoir grossir comme ça, de voir aussi loin. » Et il va commencer à utiliser son invention pour la tourner, bien entendu, vers le ciel. Alors, au départ, il observe la Lune, ses cratères, et commence à comprendre qu'elle tourne autour de la Terre. Et il va découvrir Jupiter va commencer à observer aussi les taches solaires. Alors, on peut dire que là, on voit en fait que l'univers est très complexe, qu'il y a plein de choses, en fait, que lorsqu'on observe à l'œil nu, ben on est incapable, en fait, de voir tous ces détails-là. Et sa lunette astronomique va lui permettre, donc, d'étudier, oui, la Lune, mais va lui permettre même de voir les satellites autour de la planète de Jupiter. Ça, il fait ça le 7 janvier 1610, pour vous placer un petit peu là, dans le temps. Donc, il observe Jupiter, mais il remarque ses satellites autour. Et ensuite, il observe les anneaux de Saturne. Il est fasciné, pas que lui. Il présente, comme je dis, c'est un bon vulgarisateur. Alors, rapidement, à l'université, il présente en fait ses observations. Et l'observation de tout ça, ben, c'est sûr que ça l'amène à réfléchir sur le qu'on va appeler le système solaire et la place de la Terre. Et là, ben, il va publier ses premières réflexions. Il veut en fait prouver que la théorie de Copernic est valide. Et pour y arriver, ben là, il va avoir besoin d'aide parce que il se doute que la religion, l'Église, n'appuiera pas nécessairement le chemin qu'il est en train de prendre. Alors, il va demander à être parrainé par un comte de Médicis qui va le prendre sous son aile. Parce que, bon, Galilée dit tout ce que je vais découvrir, entre autres les lunes de Jupiter, je vais les nommer en l'honneur des membres de votre famille, aide-moi. Et c'est comme ça, en fait, qu'il a au moins un patron, on peut dire ça comme ça, qui est comte de Médicis, et qui permet à Galilée, à la limite, à l'université, et même à l'écrit, de commencer à enseigner, démontrer, en fait, comment fonctionnent les corps célestes. Donc, la lune qui est un peu semblable à la Terre, sauf que c'est elle qui tourne autour de la Terre, mais que la Terre tournerait autour du Soleil. Et que les lunes de Saturne ont une rotation aussi. Et il va s'intéresser de plus en plus à Vénus pour essayer de démontrer, en fait, l'existence du système solaire. Et là, ça commence à menacer l'Église parce qu'il est vraiment en train de prouver que c'est le Soleil qui est au centre et non pas la Terre. Et dans une vision où Dieu a créé le monde, on n'est pas prêt, en fait, à aller là. Et c'est ça qui va nous mener, en fait, à cette période historique dans la vie de Galilée qui fait en sorte qu'il va se retrouver devant le tribunal de l'Inquisition et il va se retrouver, en fait, à être mené, en fait, à avoir un procès, littéralement. Alors, l'opposition, on pourrait dire ça comme ça, face à Galilée, au fait qu'il est de plus en plus populaire, hein, il faut le dire, les gens veulent l'écouter, veulent comprendre davantage, parce qu'il amène des preuves, il a les outils aussi pour observer le ciel, ce qui fait en sorte qu'on s'intéresse beaucoup à ses théories, et là, ben, l'opposition va s'organiser, puis on va lui demander de faire accorder ses théories, mais avec la Bible, et là, ça devient un peu plus compliqué. Il va consulter un de ses amis, qui est le cardinal Barberini, qui va devenir le futur pape Urbain VIII, il dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça? C'est un peu compliqué parce que je m'en vais un peu dans l'autre direction. Et le cardinal va dire, mais écoute, on est rendu en 1615, la théorie copernicienne, elle ne peut pas se défendre sans preuves tangibles. trouves le plus de preuves possibles et tu vas peut-être pouvoir, en fait, démontrer que c'est valide. Et là, ben, Galilée va y aller, là. Il va chercher, il va tenter de défendre la théorie de l'héliocentrisme. Et c'est comme ça que la résistance, en fait, religieuse va se mettre en branle parce que la plupart des gens qui s'intéressent à la science disent « mais Galilée a raison ». On voit pas comment, en fait, la théorie d'une Terre fixe au centre peut encore fonctionner avec ce qu'il est en train d'observer dans le ciel. Et c'est un peu comme ça qu'en février 1616, on y est, on commence à censurer la thèse copernicienne. Donc, l'Église ne veut plus qu'on en parle, il ne faut plus que ce soit enseigné. Galilée, bon, qui l'appuie à fond la caisse, si vous me permettez cette expression, il n'est pas accusé, mais on lui demande d'enseigner sa thèse comme une hypothèse. Et ça, c'est vraiment important. On lui dit, on te donne le droit encore d'en parler, mais il ne faut pas que tu dises que c'est la réalité hors de tout doute. C'est une hypothèse parmi d'autres. Et on ne veut pas qu'il l'enseigne ou la véhicule trop. Donc, il a le droit, dans le milieu universitaire, de continuer ses recherches, d'en parler, mais il ne faut pas qu'il commence à enseigner ou à véhiculer l'idée que c'est la seule possibilité. Et Copernic s'est retrouvé dans la même situation, là. Et là, il y a des menaces de bûcher pour tout ça. C'est, il faut dire quand même, aussi l'époque de la contre-réforme et on veut limiter les effets du protestantisme. Alors, l'Église est terriblement chatouilleuse pour tout ce qui pourrait la contester. Et, ben, l'héliocentrisme, à ce moment-là, ben, ça en fait partie. Et on a une inquisition romaine qui a été fondée en 1542 par Paul VII, qui commence à avoir plus de pouvoir et d'influence sur une bonne partie de la péninsule italienne. Elle est formée de spécialistes de ce qu'on appelle le droit canon, qui sert en fait à évaluer qu'est-ce qui est hérétique, qu'est-ce qui va en fait contre l'Église. Et c'est cette inquisition d'ailleurs qui va être aussi à l'origine de la création de ce qu'on appelle une congrégation de l'index qui existe depuis 1572, qui censure donc finalement les fameux livres et les théories écrites qui vont à l'encontre des doctrines de l'Église. Et c'est là que se retrouve en fait la thèse copernicienne. Donc ça s'en va à l'index. D'ailleurs, il y a des œuvres d'Érasme, des traductions vernaculaires de la Bible qui s'y trouve aussi. Et c'est ça, donc, la thèse de Copernic, là, qui, dans son nom latin, était de « Revolutionibus orbium celestium », mais, donc, on pourrait dire la rotation des astres. Tout ça, en fait, ben, c'est mis à l'index. Et bon, ben, plus tard, vous allez voir, là, Descartes, Rousseau, Diderot, Simone de Beauvoir vont y aller aussi. Mais, parce que ça va être aboli, ça, à la fin du Concile du Vatican II, en 1966. Alors, ça va avoir une longue vie, cette congrégation de l'index. Et donc, si on revient à Galilée, ben donc, quand son ami cardinal devient pape, il lui suggère de publier un livre qui présenterait de façon impartiale les deux théories. Il dit à Galilée, je comprends où tu t'en vas, je sais que tu as fait la recherche nécessaire, je veux pas t'empêcher d'en parler, mais moi, je suis dans une situation quand même délicate, alors si tu présentes les deux théories, là, je pense que ça peut fonctionner. Et c'est comme ça, là, qu'on va avoir la publication, en fait, de ce qu'est le dialogue sur les deux grands systèmes du monde, mais c'est pas si impartial que ça, parce que Galilée est convaincu, en fait, de l'héliocentrisme, et c'est ça qui lui vaut son procès, en fait, ses procès, parce que, bon, le premier, le 26 février 1616, on lui dit, en fait, que là, ben, il n'a pas le droit de parler de ces théories-là, il peut en parler un peu en disant que c'est des hypothèses, mais il faut pas qu'il l'enseigne, il faut qu'il garde ses recherches pour lui, ce que Galilée ne fera pas, il est trop convaincu, en fait, qu'il a raison. Et c'est un petit peu comme ça que là, il va se retrouver dans une situation qui est quand même assez délicate. Parce que malgré ce jugement de 1616, il va quand même continuer de parler, en fait, des idées coperniciennes. Et c'est un petit peu comme ça que là vont arriver des procès beaucoup plus importants. En fait, en septembre 1632, on est quand même beaucoup plus tard, mais le Galilée est demandé à Rome. Il arrive en février 1633 et là, ce sont des accusations beaucoup plus fermes, en fait, qui vont être déposées contre lui. Il est accusé d'aller à l'encontre de la Bible, notamment des psaumes 104-5 qui dit « Dieu a installé la terre sur ses fondations ». Elle ne peut plus être déplacée. Et on l'accuse donc d'avoir continué à enseigner les idées coperniciennes malgré ce jugement de 1616. Lui, il va le nier. Il va admettre qu'il a fait des erreurs, qu'il a peut-être laissé penser à ses lecteurs et aux gens qui l'écoutaient là, que son livre défendait les idées coperniciennes. Il essaie de contourner un peu la situation. Mais bon, le 22 juin 1633, on le suspecte en fait officiellement d'hérésie. Et le jugement, ben, c'est qu'il va être emprisonné à vie. Et là, ben, c'est sûr que Urbain VIII réagit en disant « Non, non, attendez, emprisonnement à vie pour des théories scientifiques, je pense que c'est peut-être pas nécessairement le meilleur des jugements. » Alors, le pape, son ami, réussit quand même à transformer, en fait, l'emprisonnement à vie en une assignation à résidence. Alors, Galilée ne peut plus aller dans les universités, mais il va continuer à travailler de chez lui, va continuer à résumer ses travaux des 40 dernières années. C'est ce qui va donner, en fait, son ouvrage du discours sur deux sciences nouvelles. On voit qu'il est encore toujours sur deux sciences nouvelles, mais c'est sûr que la portée de sa réflexion va être très, très, très limitée après ces procès-là, et les gens sont très inquiets aussi. Donc, on essaie de pas trop... On veut pas se retrouver dans la même situation que lui. Et c'est ce qui fait que Galilée, va mourir à l'âge de 77 ans, le 8 janvier 1642, aveugle, et il a jamais vraiment pu laver son honneur de scientifique à cause de ce procès célèbre, procès au cours duquel, il aurait quand même dit « Mais pourtant, elle tourne, cette terre. » Mais l'histoire gagne d'une certaine façon parce que les gens vont réaliser qu'il avait raison, et quand on va pouvoir commencer à faire de la science de manière beaucoup plus claire et affichée, Galilée et Copernic vont être réhabilités par les scientifiques, par les universités. Ça va prendre du temps que eux soient réhabilités par l'Église, par contre, mais dans le milieu scientifique, très, très rapidement, on va en faire, en fait, les précurseurs en astronomie et les premiers à avoir compris comment fonctionnait le système solaire, ce qui est quand même pas rien. Et donc, pour en savoir plus sur les sujets d'aujourd'hui, je vous recommande entre autres Galilée et ses publics, instruments, images et culture du secret, qui a été publié par Mario Baggioli et paru aux presses universitaires de Strasbourg. Et vous avez aussi Galilée dans l'histoire, science, religion, politique par Jean-Paul Valque. Et ça, c'est paru chez Nouveau Monde Éditions. Et si vous souhaitez suivre mes actualités en histoire, en archéologie sur les réseaux sociaux, j'ai mes deux comptes Facebook, Evelyne Ferron, historienne, et Historiophile, qui est mon compte d'actualité quotidienne. Et je fais aussi de ces actualités sur mon compte Blue Sky, encore sur X un peu, et je m'amuse avec les publications historiques en story sur mon compte Instagram, où je pige un petit peu partout là, sur ce qui se passe, que je vois, blagues, etc. Et donc, si vous appréciez ces petits cours d'histoire, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur les plateformes et à partager les épisodes afin que d'autres personnes les découvrent. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain cours!